Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces nouvelles du monde. Nous sommes le mardi 15 avril et il pleut. Des infos, il y en a plein, il a donc fallu choisir pour vous les dire. Donc c'est un petit peu du tout venant et on va commencer directement en musique avec un petit retour sur les manifestives, des manifestations qui ont lieu dans plein de villes de France pour soutenir le mouvement des Free Parties. Ça, c'est à Toulouse que ça a été pris, où des milliers de personnes ont défilé, ainsi que dans les rues de Paris, Marseille, Montpellier. C'était le samedi précédent, je vous en avais parlé. Donc des manies festives, hein, mobilisation de teufeurs contre la répression des rave parties. Notamment, elles s'inquiètent sur une proposition de loi qui voudrait en renforcer la pénalisation. À Marseille, par exemple, ils étaient environ 2000 selon la police. Ils ont remonté la canne-bière depuis le Vieux-Port, en dansant avec évidemment des camions sono, puisqu'au niveau sono, ils savent s'organiser, les teufeurs. Ils se sont dirigés vers la préfecture. À Montpellier, c'était 3000 personnes qui se sont rendues le samedi précédent, le 5 avril. Eux, ils dénonçaient principalement un arrêté préfectoral du préfet de l'Hérault qui lui interdit tout rassemblement sur toute l'année 2025. Mais de manière générale, donc, ce mouvement est dans le collimateur des autorités qui refusent tout dialogue, alors que justement, les organisateurs cherchent souvent à trouver des terrains d'entente. Les free parties, si vous ne le sauriez pas, ce sont des rassemblements non déclarés et gratuits qui peuvent réunir des milliers de personnes, parfois pendant plusieurs jours. Pendant ces manifs, la foule a pu brandir des pancartes proclamant par exemple « La teuf ne vole pas les fonds publics ». Plus de son, moins de répression. Liberté, égalité, tape du pied. Je rêve d'un monde où j'ai le droit de danser. Ou enfin, plus de teuf, moins de keuf. Voilà un petit peu le ton, l'ambiance de ces rassemblements, qui étaient donc très festifs et assez jeunes. On vient manifester pour montrer aux gens ce qu'est le mouvement Free Party, et aussi contre la répression et les violences des forces de l'ordre, disait par exemple un jeune homme de 24 ans qui était venu à Marseille depuis sa ville d'Aubagne. On ne veut pas de cette loi qui prévoit de la prison pour les organisateurs. On est un mouvement attaché à la liberté, à l'autogestion, au partage. À Nantes aussi, en Loire-Atlantique, au moins 2000 personnes ont défilé en musique dans le centre-ville. Les fêtes, la danse sont un espace de liberté que nous ne sommes pas prêts de nous voir retirer, déclarait par exemple là aussi une des organisatrices présentes à ce rassemblement de Nantes. Des manifestives du même genre, donc je vous le disais, ont eu lieu dans au moins une douzaine de villes en France. Et la proposition de loi contre laquelle ils se rassemblaient vise à renforcer la pénalisation de l'organisation des free parties. Donc ce sont les organisateurs et organisatrices qui sont visés. Pour les autorités, ces free parties se transforment souvent en lieu de dérapage. Ils parlent évidemment, entre autres, de la consommation de stupéfiants. C'est ce qu'ont notamment précisé les 44 députés de la majorité présidentielle qui sont à l'origine de ce texte de loi. En plus des amendes, qui sont prévues aussi pour les participants d'ailleurs, cette loi prévoirait jusqu'à 6 mois de prison pour toute personne qui participe à l'organisation d'une free party, que ça soit de poser le mur de son d'enceinte ou installer par exemple un food truck pour venir faire du commerce et donner à manger aux participants. Et en plus de tout ça, le matériel pourrait être saisi et confisqué. Cette proposition de loi, c'est la 11-133. Proposition 11-133, on n'en veut pas pour l'avenir, pour nos droits. Proclamer là aussi une banderole accrochée sur une camionnette dans le défilé de Marseille. À Montpellier, au cours du conseil municipal du 10 avril dernier, eh bien, l'opposition de gauche au maire Michael de la Fosse a déposé un vœu pour demander l'arrêt du soutien de la ville de Montpellier à la journée de Jérusalem. Une journée de Jérusalem donc à laquelle les barons socialistes locaux participent depuis bientôt 50 ans. Eh bien, le maire de Montpellier a déclaré que cette journée de Jérusalem se tiendrait désormais dans un lieu privé et non plus au domaine de Gramont, donc un domaine public. C'est ainsi une victoire pour les soutiens montpelliérains à la Palestine et qui étaient à l'origine de cette demande. Ils étaient devant la mairie de Montpellier, donc jeudi dernier, le matin, dans le cadre de ce conseil municipal, pour venir soutenir ce vœu qui a été formulé par l'opposition de gauche au maire socialiste Michael de la Fosse. Cette opposition, c'est le groupe MUPES, menée par notamment Alenka Doulin, qui demandait donc l'arrêt du soutien municipal à cette journée de Jérusalem, capitale une et indivisible du peuple juif. Ça, c'est le nom de cette organisation. Donc, une revendication, capitale une et indivisible du peuple juif pour la journée de Jérusalem. Elle est organisée par le Centre culturel juif Simone Veil. Les mots de cette revendication s'alignent sur celles des intégristes israéliens et elle est donc contraire au droit international, dans lequel eh bien, Jérusalem est justement la capitale de nombreuses religions. Et à noter que cette maxime a été reprise d'ailleurs par un certain Donald Trump en 2017. Cette journée de Jérusalem se tenait donc au domaine de Gramont depuis 1977, en présence des barons socialistes locaux, et avec donc sur l'affiche les logos des collectivités, le département et la ville. L'an dernier, on pouvait par exemple trouver dans cette journée SAR-L. C'est une association qui propose par exemple des séjours de volontariat civil dans l'armée israélienne pour des jeunes et des adultes. Au programme de ces séjours, randonnée, animation en soirée avec des soldats francophones et lavage des tenues des réservistes. Mais donc face à la pression des manifestants et de son aile gauche, le maire de Montpellier a dû concéder à la fin du conseil municipal que cette journée ne serait plus organisée dans un espace public. C'est pour l'opposante Alenka Doulin une nouvelle victoire pour la justice et la paix, ce qu'elle a déclaré dans son communiqué. Cette décision marque donc un recul du maire dans son soutien inconditionnel à l'État d'Israël, mais le combat continue pour les soutiens de la Palestine, puisque récemment encore, Michael de la Fosse a signé une tribune demandant la création d'une loi pour interdire la critique du sionisme. Et par ailleurs, le Centre culturel juif Simone Veil reste toujours en lien avec la municipalité, puisqu'en 2024, donc en plein génocide, il a bénéficié de 31 000 euros de subventions de la part de la ville. Et vous l'aurez compris, c'est un organisme qui a une vision du sionisme assez radicale. Une autre demande d'ailleurs est venue pour la municipalité de Montpellier. Elle vient cette fois-ci du collectif BDS Urgence Palestine, donc boycott des investissements, sanctions. Une ONG une association qui prône pour le boycott des produits israéliens. Cette demande a été, elle, refusée donc au cours de ce conseil municipal. L'association avait demandé de suspendre la représentation de la Batsheva. C'est une compagnie israélienne attendue en ouverture du festival Montpellier Danse, une compagnie de danse donc. Le maire a affirmé « Tant que je serai maire, jamais les artistes ne seront boycottés ». Par ailleurs, les militants souhaitent aussi faire supprimer le jumelage de Montpellier avec la ville israélienne de Tibériade, que l'ancien maire socialiste Georges Frêche, qui parlait de Montpellier comme d'un poste avancé de Tsahal en son temps, avait inauguré en 1984. Sur le terrain des combats d'Israël contre le Hamas à Gaza, y aura-t-il des négociations qui s'ouvriraient en vue d'un arrêt des hostilités ? C'est en Égypte, qui est un des pays médiateurs dans ce conflit à Gaza, qu'a été reçue une proposition d'Israël qui inclut la mise sur pause temporaire de la guerre dans l'enclave palestinienne. Les diplomates égyptiens ont transmis donc la proposition israélienne au Hamas et attendent sa réponse dans les plus brefs délais. C'est ce qu'il déclarait hier soir à des sources Al-Qaïra News, sans rentrer dans le contenu de la proposition. Eh bien, le mouvement islamiste palestinien, donc le Hamas, annonçait hier qu'il répondrait à cette proposition d'une trêve temporaire après les consultations nécessaires. Plus tôt dans la journée, hier, un responsable du Hamas confirmait donc à l'AFP qu'ils avaient bien reçu une proposition de trêve de la part d'Israël, mais il précisait qu'une condition proposée par Israël dans cette proposition de trêve violait les lignes rouges de l'organisation, à savoir le désarmement du mouvement. La question de savoir si le Hamas gardera ses armes ou pas, et que donc cette condition ne visait pas à une cessation complète des combats, mais seulement pour Israël à récupérer des otages, et pareil pour le camp du Hamas. Hier, plus tôt dans la journée, donc, un haut dirigeant du Hamas affirmait que le mouvement palestinien était prêt à libérer tous les otages israéliens, notamment en échange de garanties que l'État hébreu mettrait fin à la guerre et se retirerait de la bande de Gaza. Celui-ci accusait Israël d'entraver les progrès vers un cessez-le-feu, mais affirmait toutefois que le Hamas ne désarmerait pas, ce qui est donc une des conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre. Selon ces termes, ils ont dit « les armes de la résistance ne sont pas sujettes à négociation ». Une délégation du Hamas s'était rendue ce week-end au Caire pour des discussions avec des responsables de l'Égypte et du Qatar qui, avec les États-Unis, conduisent donc en ce moment une médiation en vue d'une trêve dans le territoire palestinien.
Enfin, c'est une longue histoire, mais je vous expliquerai tout ça.
Et aux États-Unis, justement, la révocation du statut légal de 532 000 immigrés vient d'être suspendue par le fait d'une juge de Boston. Elle s'appelle Indira Talwani. Elle s'est opposée donc aujourd'hui à l'expulsion souhaitée par Donald Trump de centaines de milliers de Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens ou Vénézuéliens, des personnes qui bénéficiaient d'un statut protégé en raison de la situation des droits humains dans leur pays. La décision de cette juge donc est la dernière ordonnance en date contre la volonté du président américain de procéder rapidement et massivement à des expulsions en ciblant en particulier les latino-américains. L'administration Trump avait annoncé à la fin du mois de mars la fin d'un programme spécial, donc un programme mis en place en 2023 par le précédent gouvernement, donc le précédent de Joe Biden, et ce programme permettait justement aux Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens ou Vénézuéliens de séjourner aux États-Unis pour 2 ans à cause donc de la situation des droits humains dans leur pays. Ce programme a permis au total à plus d'un demi-million de personnes d'entrer aux États-Unis. Ça se faisait environ à hauteur d'un maximum de 30 000 par mois sur demande. Eh bien, la juge Talwani a ordonné donc la suspension d'urgence de l'abolition du programme. Elle s'est appuyée sur la loi, notamment en estimant que le gouvernement agissait sur la base d'une interprétation erronée de cette loi, puisque la procédure d'expulsion accélérée voulue par Trump s'applique aux non-citoyens entrés illégalement aux États-Unis, donc aux clandestins, mais pas aux personnes qui y séjournent légalement en vertu de programmes gouvernementaux, ce qui est donc le cas de ces 532 000 personnes. Si elle n'avait pas proposé cette suspension, les migrants entrés aux États-Unis en vertu de ce programme auraient dû quitter le pays d'ici le 24 avril, soit 30 jours après la promulgation du décret y mettant fin. Et pendant sa campagne électorale, le président Donald Trump avait promis d'expulser des millions d'immigrés dans sa tête. On reste aux États-Unis où l'université de Harvard s'oppose à Donald Trump et le président, en réponse, gèle 2,2 milliards de dollars d'aide à la prestigieuse université. C'est la direction de l'université de Harvard qui vient de rejeter une série d'exigences de la Maison-Blanche. Celle-ci a annoncé en réponse donc le gel de ces 2 milliards de subventions. C'est prévu sur plusieurs années, hein, ces milliards. Et c'était hier donc que tout cela s'est passé. Le campus de Harvard, comme celui de bien d'autres universités américaines, a en effet été le théâtre d'une mobilisation étudiante massive contre la guerre menée par Israël à Gaza. Et ce mouvement donc a été pris pour cible par l'administration Trump depuis son retour au pouvoir. Le gouvernement américain avait prévu à la fin mars qu'il envisageait donc de priver Harvard d'environ 9 milliards de dollars de subventions fédérales suite à un examen complet. Il accusait l'université de laisser prospérer l'antisémitisme sur son campus. Au début de ce mois d'avril, donc, il avait transmis plusieurs exigences à la direction, notamment la fin des politiques qui visent à favoriser la diversité et des changements dans les programmes qui alimentent le harcèlement antisémite. Donc j'imagine des programmes visant à informer sur la situation en Palestine. Et cette administration Trump avait aussi d'ailleurs réclamé à Harvard un audit des opinions des étudiants et du corps enseignant. Pas mal. Dans une lettre donc adressée aux étudiants et au corps enseignant, le président de l'université, Alan Garber, a assuré hier que sa fac n'abdiquerait pas son indépendance ni ses droits garantis par la Constitution. Aucun gouvernement, quel que soit le parti au pouvoir, ne doit dicter aux universités privées ce qu'elles doivent enseigner, qui elles peuvent enrôler et embaucher, ni sur quelles matières elles peuvent mener des recherches. La perturbation de l'apprentissage qui a frappé les campus ces dernières années est inacceptable, a répondu le ministère de l'Éducation américain. Le harcèlement des étudiants juifs est intolérable et c'est donc dans ce communiqué qu'il a annoncé le gel des subventions. Il faut savoir que ces subventions fédérales représentent 11% des revenus de Harvard sur un budget annuel environ de 6,4 milliards de dollars. Ce sont les données qui ont été publiées par cette université qui est une université privée installée à Cambridge près de Boston au nord-est des États-Unis. Et pour les mêmes raisons, le gouvernement a d'ailleurs déjà coupé 400 millions de dollars de subventions à une autre prestigieuse université, celle de Columbia, qui est située à New York. Et celle-ci, contrairement à Harvard, a engagé ces dernières années des réformes drastiques demandées par l'administration Trump pour tenter de récupérer ces fonds. Il faut croire qu'ils ont un petit peu moins d'argent dans leur caisse à Columbia.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Et aux États-Unis, toujours et dans l'espace maintenant, Katy Perry et d'autres femmes ultra riches se sont payées un vol dans l'espace. Un vol de 11 minutes, hein, pas non plus la traversée de la galaxie. La chanteuse Katy Perry, donc, était la plus connue de ces voyageuses. On peut citer aussi l'animatrice Gayle King ou la fiancée du milliardaire Jeff Bezos, Lauren Sanchez. Toutes ces femmes donc ont pris part le 14 avril à un vol spatial opéré par l'entreprise Blue Origin, c'est la société de Jeff Bezos. Était aussi présente une productrice de cinéma, une ancienne scientifique de la NASA, Aisha Bow, et la chercheuse en bioastronautique et défenseur des droits des femmes, Amanda Nguyen. C'est le 11e vol suborbital qui a été organisé dans le cadre de ce programme New Shepard par l'entreprise Blue Origin. Il y a déjà eu 52 personnes qui se sont envolées dans ce vaisseau. Un vaisseau qui atteint une altitude de 100 km. L'espace, c'est vraiment pas loin si vous y réfléchissez. Le coût du billet, en tout cas, pour aller 11 minutes en suborbite, ça varie entre 150 000 et 250 000 dollars. L'entreprise et donc les riches participantes de ce voyage se sont félicitées que c'était le premier équipage 100% féminin et qu'il n'y en avait pas eu dans l'espace depuis 1963. Un argument féministe donc pour mettre en avant ce vol. Peut-être, en tout cas, celui-ci n'était évidemment pas écologiste du tout. C'est l'économiste Lucas Chancel, qui est co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris, qui a essayé d'évaluer l'empreinte carbone de ces vols. Il a réuni toutes les informations qu'on peut trouver en ligne sur les rejets de carbone, évidemment liés à la production du carburant, mais aussi à la construction du site de lancement et des fusées, ou encore aux 3500 employés de l'entreprise. Ce document a donc été consulté par le service Check News de Libération, dans lequel cet article est publié, et on arrive à la conclusion qu'aujourd'hui, chaque passager pour un vol suborbital avec Blue Origin génère 430 tonnes de CO2 environ, donc 71 tonnes en émissions directes, hein, ça c'est le lancement qui fait quand même une sacrée fumée, et 358 tonnes de CO2 indirectes, toute la chaîne dont je vous ai parlé juste avant. Ça équivaut en tout cas à peu près à 200 fois le budget carbone annuel individuel qui permettrait, selon le GIEC, de respecter l'objectif du plus 2 degrés de l'accord de Paris. Voilà, donc 200 fois le budget par an d'une personne telle qu'on souhaiterait en tout cas le voir faire, cramé dans un vol de 11 minutes. Blue Origin a assuré justement aux journalistes qu'elle ne recourait qu'à des carburants très efficaces et propres et qu'elle s'engageait à miser sur la réutilisation lors de la conception de ses véhicules de lancement et de ses moteurs. Ouais. En tout cas, les 1% les plus riches sont responsables de deux fois plus d'émissions que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Après leurs yachts privés et leurs avions d'affaires, les lubies spatiales de ces ultra-riches entretiennent l'illusion de toute puissance à l'origine des graves dérèglements de la biosphère terrestre. Ça, ce sont les mots de trois physiciens français dans un article qui a été publié sur le site The Conversation.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Allez, un vol qui a fait quand même moins de dégâts, mais quand même une petite histoire qui a fait pas mal de polémiques, notamment dans la région, puisque c'était dans les, du côté de la Camargue. C'est la société de production du film « Donne-moi des ailes », un film de Nicolas Vanier. Et donc la société, c'est Radar Film, vient d'être jugée coupable ce 11 avril par le tribunal de Nîmes à cause de la destruction de 520 œufs de flamant rose. En Camargue, donc, la société a été condamnée à 50 000 euros d'amende pour la destruction non autorisée d'œufs ou de nids de cette espèce protégée, donc le flamant rose, et également 2 000 euros supplémentaires pour la perturbation volontaire et l'atteinte à la conservation des flamants roses. Alors, on parle de deux vols en ULM pour les besoins d'un tournage. Ça remonte à 2018, hein, cette affaire, quand même. Deux ULM survolaient une colonie de flamants roses en pleine période de couvaison. C'était pendant le tournage du long métrage. Effrayés, les oiseaux s'étaient enfuis en détruisant au passage plusieurs centaines d'œufs, ce qui a entraîné la disparition de 11% de la reproduction annuelle de cette colonie. Lors du procès qui s'est tenu à ce mois de mars, le procureur avait requis une amende comprise entre 80 et 100 000 euros contre la société de production pour avoir donc survolé ce site qui est quand même classé Natura 2000. Les parties civiles, elles, avaient réclamé près de 600 000 euros de dommages et intérêts. Nicolas Vanier, le réalisateur, qualifie la décision de très injuste et il explique « Je reste convaincu que les seuls responsables sont les pilotes qui ont fait du grand n'importe quoi. La production et moi avons été victimes dans cette affaire. La justice a tapé sur ceux qui étaient solvables. » A l'inverse, en refusant de reconnaître l'impact écologique, ce verdict constitue une déception qui minimise la gravité des dégâts infligés à une espèce patrimoniale particulièrement vulnérable. Ça, ce sont les mots de Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Et en tant que partie civile, il envisage donc de faire appel.
À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Ah oui, j'ai fait la boulette.
On a repoussé les limites, là.
Allez, des dégâts écologiques un peu plus spectaculaires, c'est en ce moment... Enfin, c'était hier en Écosse. Pardon, c'est pas du tout hier, c'était le 9 avril, j'ai dit n'importe quoi. Une violente explosion a secoué une ancienne usine de recyclage de batteries de véhicules. C'est l'usine Phoenix, on est à Kilwinning. Des milliers de batteries, donc au lithium-ion, qui sont abandonnées là depuis la faillite de l'entreprise, ont pris feu, ce qui a provoqué un gigantesque incendie et des scènes de chaos. Et là où ça commence, il y a un panache de fumée impressionnant avec des pétarades, parce que les batteries au lithium, quand ça fume et quand ça brûle, c'est un peu sans fin. Et puis là où c'est vraiment que ça commence à être lourd pour les habitants de la petite ville, c'est que c'est le deuxième incendie de l'année et que vous l'aurez compris, l'entreprise est en faillite, donc l'entrepôt est à l'abandon et qu'à part balancer de l'eau, appeler les pompiers, il n'y a personne qui se tient responsable pour cet énorme désastre écologique. Le permis d'ailleurs du site avait été révoqué, mais le site n'a toujours pas été sécurisé. À Marseille, un employé de l'aéroport Marseille-Provence a été licencié, c'était au mois de mars, à cause de sa générosité. En effet, il avait distribué des invendus alimentaires qui étaient censés partir à la poubelle et il a préféré les donner à des personnes sans domicile fixe, ainsi qu'à des travailleurs, travailleuses, des collègues du site. C'est dans le quotidien La Provence qu'on a pris cette histoire. Trois de ses collègues sont également concernés. Mais l'affaire a fait un petit peu du bruit et donc il compte aller au prud'homme. Petit rappel quand même des chiffres par le média L'Humanité qui relaye aussi cette information. 48% des personnes interrogées en France affirment ne pas faire 3 repas par jour, dont 15% pour qui c'est le cas régulièrement. Ça, c'est la dernière édition du baromètre de la pauvreté du Secours populaire français. 48% des personnes interrogées, pardon, pas 48% de la population. En tout cas, dans ce contexte, donc, ce garçon de comptoir limonadier, c'est le nom du poste, il travaillait à l'aéroport Marseille-Provence et il travaillait pour Starbucks et Prêt-à-Manger. Ça fait 30 ans qu'il bosse là-bas. Il vient d'être licencié donc pour faute grave au mois de mars par la direction des enseignes Starbucks et Prêt-à-Manger, les deux appartenant au groupe SSP. On lui reproche donc d'avoir distribué des invendus alimentaires qui étaient destinés à être rejetés. Et donc il a été interrogé, lui explique être fier d'avoir donné à manger et d'ailleurs il ne s'est jamais caché de ses actions. Il affirme d'ailleurs que tout se passait dans la plus grande transparence, le tout sous les caméras de vidéosurveillance. Ma direction était au courant, le directeur opérationnel de l'aéroport aussi. Il y avait une surproduction. Mon supérieur m'a dit que c'était bien comme ça, qu'il fallait continuer. D'ailleurs, que sinon, il était obligé de sortir de l'enceinte de l'aéroport pour jeter dans des poubelles spéciales. Et que ce temps et ces poubelles avaient un coût, donc ça arrangeait tout le monde. Eh bien, la direction, elle, dément avoir été au courant. Le DRH du groupe SSP affirme d'ailleurs à l'inverse qu'aucun salarié n'a le droit de partir avec de la marchandise destinée à être jetée. Celle-ci doit être jetée dans les containers à poubelles prévus à cet effet, sauf décision contractuelle dans les accords des franchises. Voilà. Trois des collègues donc, de la personne licenciée sont également concernés et tous les quatre, ils ont décidé de se tourner vers les prud'hommes.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Et on termine ce petit tour d'actualité avec l'Italie, où le gouvernement de Giorgia Meloni et donc l'extrême droite italienne s'attaquent maintenant aussi aux activistes écologistes. Un décret a été adopté le 4 avril par ce gouvernement, donc, dans lequel tout activiste participant à des actions de désobéissance civile pourra désormais être envoyé en prison. C'est le média Basta qui a relayé l'affaire. Ce décret donc, crée par exemple de nouveaux délits. Par exemple, le délit de résistance passive. Maintenant, c'est un délit en Italie. Le blocage d'une route, hein, par exemple, pourrait être puni, si c'est dans le cadre d'une manif ou en groupe, d'une peine pouvant aller jusqu'à 6 ans de prison. Depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022, Giorgia Meloni a multiplié les attaques contre les militants et les libertés fondamentales. En 2023, elle avait publié un décret qui visait à empêcher la présence des ONG humanitaires ou leurs bateaux dans les zones de recherche et de secours des migrants qui faisaient naufrage en mer. Au début de son mandat, une circulaire appelait les maires à retirer le statut de parent aux mères non biologiques des familles LGBT+. Et au mois de mai dernier, elle avait aussi tenté de s'octroyer davantage de pouvoir en réformant la constitution italienne. Avec ce nouveau décret donc, qui vise les écologistes, Giorgia Meloni passe en force. Le texte reprend des dispositions du très polémique projet de loi sécurité globale qui avait été présenté en 2023 et qui est bloqué depuis des mois entre le Sénat et la Chambre des députés pour des raisons budgétaires. Outre cette répression accrue des activistes écolos, le décret prévoit aussi des mesures de protection juridique pour les forces de l'État, comme les militaires, les policiers accusés d'infractions pénales ou concernés par des enquêtes judiciaires pourront continuer de travailler. Détaille là aussi le journal Le Monde. Et je vous propose un peu de musique pour terminer ces nouvelles du monde. C'est le groupe Frankie and the Witch Fingers que je viens de découvrir grâce à un live tourné à Seattle sur les ondes de KIXP et qui vont donc certainement rejoindre la playlist Radio Escapade très prochainement. Le morceau s'appelle Economy et puis voilà, du rock. Et puis on se dit à jeudi, nous. Portez-vous bien.
monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.